Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Lettres Cavalier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Cocanas, je suis préparateur mental spécialisé pour les cavaliers. J'ai fondé la méthode Lettres Cavalier en 2017. Cette méthode est née car je suis également enseignante, ancienne cavalière de saut d'obstacle sur des épreuves d'1m40 à 1m45. Et cela m'a permis de trouver des clés, trouver des outils très spécifiques pour vous aider au niveau mental, mais la particularité de cette méthode, c'est que je vous aide aussi au niveau technique mental. J'en profite pour vous dire qu'il y a une grande première qui se prépare, parce que justement, après avoir accompagné plusieurs centaines de cavaliers du niveau amateur au niveau international 5 étoiles, j'ai créé pour vous un programme 100% en ligne et 100% cavalier. En effet, depuis 6 ans que je vous accompagne, il y a une problématique récurrente qui est la confiance en soi. Ce manque de confiance en vous-même vous bloque terriblement, vous prive du plaisir que vous pouvez prendre avec vos chevaux, que ce soit avec eux à la maison ou en concours. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut trouver un remède pour vous aider. Et ce programme, donc Confiance en soi pour les cavaliers, sort le 8 février. C'est une formation totalement en ligne que vous allez faire à votre rythme. Il y a 7 grandes catégories que vous allez devoir travailler sur vous de manière guidée avec des solutions qui vous seront apportées dans la deuxième partie de la formation. Ces solutions, ce sont des outils pratiques utilisés en préparation mentale, mais que vous allez apprendre à vous approprier suite à la réflexion que vous aurez menée lors de la première partie. Autrement dit, lors de la première partie, vous allez prendre conscience de situations factuelles, mais aussi de votre fonctionnement mental. Dans la deuxième partie, nous mettrons en place les solutions applicables immédiatement afin que vous puissiez agir le plus vite possible pour modifier, transformer certains comportements parasites. À noter qu'en toute fin de formation, il y a une petite surprise, il y a un bonus où je vous emmènerai vers la création d'un ancrage. Un ancrage, c'est être capable de revenir à un état que l'on choisit sur commande. Alors je vous donne rendez-vous le 8 février pour le lancement de ce programme et pendant un mois, vous bénéficierez de 20% de remise exceptionnelle pour ce lancement. À noter également que je veux que vous ne preniez aucun risque et que je souhaite que cette formation soit accessible au plus grand nombre. Ainsi, si vous sentez que cette formation ne vous apporte rien du tout, vous aurez 30 jours pour, sur un simple mail, me demander d'être remboursé à hauteur de 90% pour que vous ne preniez aucun risque. Cela étant annoncé, maintenant j'ai hâte de vous présenter la cavalière qui s'est livrée avec beaucoup de transparence à ce podcast pour vous guider, pour vous accompagner et partager son expérience très spécifique en tant qu'amateur, mais amateur éclairé, ça c'est moi qui me permets de le dire. Et sans plus tarder, je vais vous laisser avec Camille Fusotoma. Pourquoi Camille ? Camille, pour moi, est une cavalière très inspirante, justement par son niveau amateur, mais amateur éclairé. Camille, vous le savez, a gagné 2 fois l'amateur Gold Tour, 2 fois de suite, ce qui est quand même un exploit, vraiment une très très belle performance. Et elle nous explique comment elle est arrivée là, avec Hemingway et Vainé. Elle nous parlera aussi d'un fan, très spécial qui était venu la voir sur un parcours. Et puis, elle nous parlera bien sûr de son système. Qu'est-ce qu'elle met en place pour justement réussir à concourir, à avoir des classements, des victoires de manière régulière. On verra que Camille est une cavalière qui ne se blase pas, qui est avide de connaissances de ses chevaux par plusieurs techniques dont elle va aussi nous parler. Alors de mon côté, justement, j'ai assez parlé et je vous laisse en compagnie de Camille. Camille, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de nous faire part de ton expérience sur le podcast Lettres Cavalier. Je suis très honorée de recevoir une star du circuit qu'on appelle le circuit amateur, mais qui recèle beaucoup de secrets. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous apporter. Et pour cela, pour commencer, Camille, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ?
Bonjour Marie, merci pour l'invitation. J'étais un peu surprise, mais voilà, flattée. Donc je m'appelle Camille, je suis journaliste de formation et réalisatrice. Je collabore notamment avec Grand Prix TV pour l'émission Riders Club avec Kamel Boudra. Et je travaille aussi avec d'autres médias comme Clip My Horse, la FEI. Et je fais aussi du consulting, notamment en ce moment pour le Salon du Cheval de Paris, qui revient en 2024.
On a vu le Salon du Cheval de Paris, oui, qui fait son retour. Tu pourras nous en dire un petit mot peut-être?
Bah, je suis très contente qu'on m'ait appelée pour travailler sur ce projet. En tant que parisienne, évidemment, c'était un rendez-vous auquel j'allais presque tous les ans. Donc qu'on m'appelle aujourd'hui pour me demander mon expertise sur la nouvelle version, c'est un honneur pour moi et je suis très contente. C'est une équipe de jeunes ultra motivés. Donc j'espère que la nouvelle formule va plaire à tous les cavaliers.
C'est une belle reconnaissance en tout cas.
Bah ouais, ça fait super plaisir.
La nouvelle formule, elle est secrète. C'est pas forcément l'objet du podcast aujourd'hui, non. Mais forcément on a envie de savoir. Mais bon, tu nous dévoileras ça en temps voulu, on te suivra
du coup.
Journaliste, consultante, comment tu es arrivée du coup à travailler dans ce milieu du cheval, si on parle de ton travail?
À la base, j'ai une formation de journaliste assez générale. J'ai travaillé beaucoup en Afrique. Au tout début, j'étais reporter, donc je voyageais beaucoup. Et puis, il y a eu un licenciement économique sur la chaîne pour laquelle je travaillais. Et je me suis dit, je vais me laisser 6 mois pour réfléchir. Et pas de chance ou beaucoup de chance. Peut-être 15 jours après, j'ai une amie qui m'envoie une annonce pour un job chez Equidia. C'était pour l'émission Equestrian à l'époque,
oui,
qui était
oui.
présentée par Kamel. Mmh. Et j'ai postulé, et comme j'étais cavalière depuis toujours, même si je suivais plus vraiment l'actualité équestre, j'ai été embauchée. Et c'est là où j'ai commencé à travailler dans le milieu journalistique des sports équestres. Et par la suite, Kamel, ça s'est très bien passé entre nous. On a eu un super feeling et il m'a un petit peu emmenée sur tous ses projets, donc ensuite RMC Sport et aujourd'hui Grand Prix TV. Donc voilà, merci à Kamel pour cette opportunité. On est une équipe super complémentaire tous les deux, moi derrière la caméra et lui devant. Et c'est un plaisir de travailler ensemble sur tous ces projets.
Un beau binôme avec Kamel qui fonctionne, super. Si on revient, Camille, du coup sur la partie cavalière. Et la partie humain, tu sais, l'être cavalier, c'est l'être et le cavalier. Donc on va s'intéresser aussi à Camille, la personne. Où es-tu installée, Camille?
Alors mes chevaux sont à Orléans, dans nos écuries familiales. Moi, je vis à Paris, donc je fais des allers-retours entre Paris et Orléans. C'est très compliqué parce qu'il y a souvent des embouteillages, je mets beaucoup de temps pour y aller, donc j'essaye d'y aller 2 à 3 jours par semaine. Et ça va changer puisque là, je déménage, donc je vais pouvoir avoir mes chevaux plus près de moi. C'est un peu l'organisation que j'ai depuis 5 ans où j'ai vraiment repris la compétition régulièrement, on va dire.
Ce que j'ai envie de te proposer, Camille, c'est de taper fort tout de suite, de parler de ton doublé. Et ensuite, tu nous raconteras finalement comment tu es arrivée jusqu'à cette étape de ta vie où tu remportes tout. Tu gagnes beaucoup et surtout, tu as fait ce doublé sur le circuit amateur Gold Tour Estéderme FFE avec tes chevaux. C'est quand même quelque chose d'assez rare pour être, je pense, souligné. Et pour tout te dire, moi, ce qui m'a plu, c'est que je vois ton visage s'éclaircir, la joie qui émane de toi sur, je dirais, toutes les victoires, enfin, ou beaucoup de parcours. On voit ton bonheur, il n'y a pas d'habituation. Alors ce doublé, est-ce que tu peux nous en parler, peut-être la première finale et la deuxième finale?
La première finale, donc j'avais choisi Vainé de Levaux, qui est une jument qui a de l'expérience, qui est extraordinaire. Je dis souvent que c'est un char d'assaut, cette jument, elle peut tout sauter, elle a peur de rien. Et je l'avais choisi parce que Lyon, c'est une piste qui est quand même très impressionnante et je sais qu'elle, elle ne recule devant rien. Donc je savais que ce serait la coéquipière parfaite pour cette finale. Donc la première finale, j'avais fait une bonne saison, une très bonne saison. Et j'étais pas, je pense, parmi les favorites. Mais j'étais en confiance et j'ai monté comme je monte d'habitude. C'est-à-dire sans vraiment me poser de questions.
Ouais.
Et c'était une victoire magnifique. En plus, Vainé, c'est la jument donc, de la famille. C'est pas vraiment ma jument à moi, c'est la jument de mes frères et c'est ma maman qui s'en occupe beaucoup au quotidien, qui est aussi ma coach. Donc, mon beau-père aussi me coach. Donc, tout le monde était là. C'était une super victoire pour toute la famille, pour tous les gens qui entourent mes chevaux voilà, au quotidien. Et ça a été une joie extraordinaire, cette victoire. J'avais dit, ça c'est fait, on n'y revient plus. Et puis,
T'avais jamais dit jamais, on n'y revient plus jamais.
Et puis cette année, quand le circuit a repris, on s'est demandé si on allait retenter une qualif pour Lyon. Et j'avais dit que je ferais une première étape qualificative, qui était celle de Fontainebleau en avril. Et j'ai gagné cette étape qualificative avec mon deuxième cheval, Hemingway. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà, t'as presque fait la moitié du chemin de la qualification en termes de points. Bah vas-y, hein, c'est parti, on y retourne. Et pour se qualifier pour la finale de Lyon, il faut faire quatre étapes
Quatre étapes.
minimum. Et j'en ai fait trois et j'étais déjà qualifiée. J'avais déjà mes points, j'étais quasiment déjà en tête du circuit. Du coup, j'ai dû faire la quatrième quand même pour entrer dans la qualification. Et voilà, je me suis qualifiée pour la finale. Donc, je me suis dit c'est que ce serait quand même stupide de ne pas aller à Lyon, qui est un concours que j'adore. Donc, j'y suis retournée et j'ai de nouveau choisi Vahiné pour y aller. Alors que c'était plutôt Hemingway qui m'avait qualifiée pour la finale. C'est un super cheval à l'extérieur. Mais Lyon, je pense que ce n'est pas un endroit pour lui. Il est un peu craintif, un peu stressé. Et je me suis dit, bon, t'as une jument parfaite qui connaît l'endroit, il faut la reprendre, c'est logique. Et cette année à Lyon, je suis quand même arrivée avec beaucoup de pression. Esthéderm m'avait mis un brassard, j'étais en tête du circuit, donc beaucoup de pression. Et en fait, j'ai exactement fait comme l'année passée, j'ai monté comme j'ai l'habitude de monter. Parce que la première année, on était très peu de cavaliers au barrage, je crois 3 ou 4. Et cette année, on était près de 15. Et je m'élançais en dernière. Donc, pression maximum. Et bon, Vahiné, c'est une jument qui est extrêmement rapide, qui va rarement à la faute. J'avais vu un petit peu les chronomètres des autres cavaliers. Ça me paraissait pas impossible. Il y avait des grandes lignes où je pouvais retirer des foulées, ce qui est un peu la qualité principale de Vahiné. Et je me suis dit, vas-y, on y va à fond.
On y va.
La première année, ça avait été une joie extraordinaire. Mais je crois que la deuxième année, c'était toujours la même. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le même bonheur, la même joie. Encore une fois, il y avait ma maman, mon beau-père, tous mes amis, Kelly et Pina qui suit ma jument en massage,
Oui.
Ludivine Noël qui suit ma jument en communication animale. Donc voilà, tout le monde était là, plein d'amis. Enfin, ça a été encore une victoire géniale. Voilà, j'ai
T'as kiffé. Écoute, ça s'entend et au moins ça se voit et c'est tu le partages et c'est très agréable. Si on se met sur cette deuxième finale, si on se disait je suis dans la peau et dans la tête de Camille. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu vis cette finale, mais même de manière un peu plus privée, un peu plus intime? Il y a Camille sur la piste, Camille au paddock, et comment tu prépares? Tu dis j'avais le brassard, mais de rien j'avais de la pression. Quand tu es à l'hôtel, tu penses à quoi? Tu fais quoi? Comment tu te prépares à ça?
Déjà, moi, je passe très peu de temps à l'hôtel parce que j'ai pas de groom. Bon, évidemment, mes parents sont toujours autour de nous avec la jument à m'aider pour les soins, pour préparer. Mais c'est vrai que j'aime bien être très tôt aux écuries. Lyon, enfin les indoors en général, je trouve que c'est des concours qui sont pas forcément agréables pour les chevaux. Et c'est vrai que j'essaye de faire passer le moins de temps possible à Vahiné dans son box sur des événements comme ça. Et mes deux chevaux en général. Donc, on allait très souvent la marcher en extérieur. On avait la possibilité de faire brouter les chevaux dehors. Donc, je passais des longs moments voilà, dehors avec ma jument. C'est vrai que je parle beaucoup à mes chevaux. Donc, voilà, on se balade, on discute. Bon, c'est surtout moi qui parle, mais je pense qu'elle m'écoute. Donc, voilà, c'est des moments. J'aime bien des moments toute seule avec ma jument. Je la gratouille, je la câline, je lui parle. Elle, je pense qu'elle passe un meilleur moment que quand elle est dans son box. Et voilà, c'est surtout ça. C'est vrai qu'à Lyon, j'étais très entourée, comme je l'ai dit à Ludivine Noël qui suivait Vahiné en communication animale. J'espère qu'on en parlera un peu parce que c'est très important pour moi.
Ouais, écoute, oui, avec plaisir.
J'avais Lou Fontanelle, une amie qui faisait un peu de vidéo justement pour Ludivine, donc qui était souvent au box. C'est vrai que c'est des moments où on est ensemble, pareil avec Kelly qui massait la jument, où on discute, on relâche un peu la pression. Donc j'aime être entourée dans ces moments-là, mais c'est vrai que j'ai aussi besoin d'un moment où je suis seule. Donc souvent, après avoir marché la jument, passé du temps avec mes amis aux écuries, à faire les soins, etc., j'aime bien m'isoler, donc je vais soit en tribune, soit me balader dans le salon. C'est vrai qu'à Lyon, je connais beaucoup de... j'ai beaucoup d'amis qui étaient à Lyon, donc c'est un peu difficile de trouver des moments pour soi.
Mais
non, pas du tout. Mais voilà, j'essaye quand même de trouver ces moments-là qui sont importants. J'ai besoin, moi, de beaucoup de sommeil. Donc quand je me lève tôt pour aller au concours, je vais faire une sieste dans mon petit camion, une heure et demie, c'est des longues siestes. Hein. Et voilà, j'ai besoin d'être très reposée, de me mettre au calme. J'écoute pas de musique, j'ai besoin de silence en fait pour me concentrer. Donc c'est vrai que dans des concours comme Lyon, c'est difficile de trouver des endroits calmes. Et, donc je me mets dans mon petit camion, je me repose, je dors. Et voilà, c'est des moments qui sont importants.
Écoute, dans ce que tu dis, ce que je comprends, peut-être qu'il y a une première clé, mais ça, c'est que tu te connais. J'ai besoin d'être
complètement
seule,
ouais.
J'ai besoin des échanges avec certaines personnes, j'ai besoin de mon temps de sieste, tu te connais.
Exactement. Et... bah, même dans la vie, c'est vrai que dans la vie quotidienne, dans mon travail, j'ai un jour, souvent je pars en tournage avec beaucoup de monde, et finalement l'essentiel de mon temps... il est seul, puisque je rentre de tournage avec mes images et ensuite je vais m'isoler pour faire du montage. Et c'est presque le moment que moi je préfère. C'est un moment où je suis seule, j'ai juste mon casque sur les oreilles, je suis concentrée. Et c'est vrai que dans la vie, j'ai pas forcément besoin d'être entourée. J'aime beaucoup les moments de solitude. Je peux aller au cinéma seule, je peux aller déjeuner au restaurant seule, je peux aller me balader seule. C'est pas des choses qui me manquent. Et en fait, tous ces petits trucs de la vie quotidienne qui m'apaisent, on va dire, ou dans lesquels je me sens bien, finalement, je les reproduis dans les concours, dans les compétitions. Le jour de tournage où j'ai Kamel, Héloïse, ma binôme derrière la caméra, l'intervenant, c'est des moments où on échange, etc. Donc, on remplit un peu la batterie sociale. Et je compare un peu ça au moment où je suis aux écuries avec Ludivine, Lou, mes parents, etc. On discute, etc. Et après, la phase de montage où je suis seule, bah, pour moi, c'est un peu ce moment où je vais faire ma sieste, où je me repose, je suis dans mon silence, dans mon calme. Et en fait, voilà, j'ai un peu reproduit ce que je fais dans la vie quotidienne en concours. Et je trouve que c'est la recette pour moi du confort, en tout cas, pour la compétition.
Du confort pour la compétition.
Ouais.
Le bien-être, finalement, du cavalier pour le bien-être du cheval.
Ouais,
parce qu'on te sent très disponible, du coup, pour ta jument.
Ouais,
quand
c'est
tu
vraiment...
dis je lui parle, t'as eu un petit sourire, ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on sent que c'est un bien-être que tu lui communiques peut-être et puis une manière peut-être de recevoir des choses de sa part.
En plus, j'essaie de me renseigner pas mal sur les chevaux et je parle, on va dire, le langage bébé pas mal. Alors le langage bébé, ce que j'appelle, c'est la petite voix qu'on prend parfois pour parler aux enfants. « Oh bébé, comment tu vas, ma
oui.
petite ?»
Ouais.
Et je lisais il n'y a pas longtemps dans un bouquin que c'est un langage que les chevaux comprennent, assimilent. Donc c'est quelque chose qu'on fait souvent sans intention, comme quand on parle aux enfants, on prend cette voix un peu bébête. Hein. Et moi, je l'utilise pas mal pour parler à mes chevaux. Alors, c'est sûr que mes voisins de boxe, parfois, ils doivent se dire « Mais complètement tarée, celle-là !» Bon, peu importe... moi, c'est ce qui me met dans mon confort. Par exemple, Hemingway, je l'appelle mon fils. Et effectivement, j'utilise cette voix un peu débile pour lui parler. Mais peu importe qu'on me prenne pour une fois.
Écoute, c'est une bonne transition. Parce qu'on va parler, du coup, si tu veux bien, j'en prie pour enchaîner sur le regard des autres, du coup. Parce que je parle comme ça, bah, peu importe, on me prend pour une folle, bon, bah, peu importe. Ça veut dire quoi? Les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, c'est mon confort avec mes chevaux. Est-ce qu'on peut parler de ce que pensent les autres, ce qu'on appelle le regard des autres? Est-ce que ça a un impact sur toi? Si ça a un impact, comment ça t'impacte?
Pas vraiment, honnêtement pas vraiment. C'est vrai que cette année à Lyon, je dirais pas que j'entendais les voisins de boxe dire « bah c'est elle, elle est trop forte, elle a gagné l'année dernière ».
Même,
non, pas du tout. Même avant la reconnaissance, voilà, il y en a qui me disaient ça va, toi t'es pas trop stressée, etc. Franchement, non, en fait.
On te le demande. On te le demande.
Mais comment tu fais pour pas stresser?
On te demande.
En fait, j'entends souvent aussi les cavaliers dire je suis en plein doute, j'ai le mot doute revient tout le temps. Et moi, c'est vrai que j'essaye de laisser le moins de place au doute. Alors, je dis pas que j'ai peur de rien, que j'ai super confiance en moi. Je pense que en fait, quand on s'élance sur une épreuve, il faut avoir confiance. Et si on doute, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être on est surclassé ou peut-être on n'a pas tous les outils pour réussir. Moi, en tout cas, j'aime pas arriver en parcours en doute. Alors oui, avant, à la reconnaissance, peut-être que je vais me dire « Tiens, aujourd'hui, c'est gros, c'est technique, c'est difficile. Mais si je suis là, c'est que normalement, je suis capable de le faire. » J'ai aussi pris des tips de cavaliers que j'ai rencontrés ou même, par exemple, au JO, on voyait le Suédois Peder Fredriksson noter ses contrats de foulée sur des notes. Et il utilisait beaucoup la visualisation, il ferme les yeux et un peu comme un skieur, on le voit dérouler son parcours à main droite, à main gauche, sauter, etc. Ça, c'est un truc que j'ai repris, par exemple. Je ferme les yeux, je m'imagine mon parcours. J'ai pas encore le petit carnet à la reco, mais c'est vrai que maintenant, fréquemment, je note mes contrats de foulée sur mon iPhone. Parce que souvent, avant d'entrer en piste, on est là, combien de foulées, je sais plus.
Mais oui.
Donc bon, je me le note quelque part. Je dis pas que je le retiens tout le temps. Parfois, je demande à ma mère au dernier moment combien il y a de foulées ici. Mais j'aime bien noter les choses. J'ai une mémoire assez visuelle, donc je note. Mmh. Et autre chose, c'est que par rapport au regard des autres, j'ai eu pas mal de fois la réflexion « tu gagnes beaucoup sur tes épreuves. Pourquoi tu vas pas sauter plus haut? T'en as pas marre de gagner tout le temps. Il faudrait te challenger un petit peu. » Et c'est un truc qui m'agace un peu parce que moi, j'aime prendre mon temps. Par exemple, je ne comprends pas les cavaliers qui vont sauter des épreuves plus hautes pour faire 8 points, 4 points, 12 points, mais qui sautent haut. Moi, j'ai pas du tout cette prétention de sauter haut. Moi, je préfère gagner, en fait. Alors, je pense pas que je sois dans des épreuves qui sont trop petites pour moi, parce que je suis au niveau amateur élite. Et moi, je suis quoi? Une amateur. C'est pas mon métier. Donc, je fais les hauteurs les plus hautes que je puisse sauter, en fait, à mon niveau. Je suis amateur. Donc, c'est vrai que cette année, j'ai essayé de sauter un petit peu plus haut. J'ai fait 1m30. Ça s'est très bien passé pour la plupart. J'ai fait même des classements. Et on m'a dit, pourquoi tu vas pas sauter 135 du coup? Mais en fait, moi, j'aime prendre le temps. Si je suis... J'ai envie de m'aguerrir sur un niveau et j'ai envie d'être bonne à mon niveau. J'ai pas envie d'aller sauter plus haut pour être pas classée. Parce que c'est vrai que ce qui me donne confiance aussi dans ma saison et au fil de ma saison, c'est les classements, c'est les réussites. Et en fait, si j'ai pas ces réussites, je vais perdre le goût, je pense. Et c'est vrai que la victoire, les classements, ça maintient cette petite flamme, on va dire, en moi. Et aller faire du concours pour ne pas être à la remise des prix, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mmh. Donc, je vais sauter plus haut, je le sais. Là, ça y est, c'est maintenant que je suis aguerrie sur 1m25, 1m30, je vais aller sauter plus haut. Mais je vais pas le faire pour aller dire « Ouais, regardez, je saute haut. » Ça m'intéresse pas. Mmh. Donc voilà, ce côté « tu te challenges pas ». Si, je me challenge, mais à mon rythme, je suis pas pressée. Moi, j'ai pas d'échéance olympique, donc je progresse, je monte en épreuve, mais tranquillement à mon niveau.
Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu confirmes, tu valides finalement tes progressions. Et ça te donne confiance. Tu vas valider 1m20, classé, sans faute, gagner 1m25, classé. Et tu prends tes appuis quelque part, tu prends
tes
zones
moi.
De confiance
très, très important.
Là pour passer après la marge du dessus.
Ouais.
Se challenger, pour toi, ça renvoie à partir pas très près finalement. Je vais me challenger pour dire je fais 140, 135.
Ah, ça ne m'intéresse pas.
C'est pas, pas. Ça ne fait pas écho.
Non.
Ouais. Très bien.
Donc certains peuvent prendre ça pour, je ne sais pas, peut-être un manque de prise de risque ou de challenge, mais en tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne.
Tu te connais, tu suis ta route.
Voilà.
Et ça marche plutôt pas mal. Bon, rien qu'en t'écoutant, ma liste de questions va s'allonger. J'espère que tu as 24 heures devant toi. Merci pour ces informations qui sont très précises et qui nous permettent de mieux te connaître. Ta saison, est-ce que tu as une manière de programmer ta saison ou comme tu disais, c'est parti sur un classement avec Hemingway et puis ça t'ouvre des possibilités? Comment tu gères ta carrière et celle de tes chevaux?
Oui,
de tes chevaux comme
même.
Ça.
Ouais. Donc, avec mes deux chevaux, au début de l'année, je me fais un planning qui va évidemment évoluer selon leur santé, leur forme, etc. Et c'est vrai que j'ai deux, trois concours que je note qui sont un peu des repères pour moi, des concours que j'adore, sur lesquels j'ai souvent de la réussite. Donc, ces deux dernières années, il y avait Fontainebleau, le championnat de France pro, où il y a une étape de l'Amateur Gold Tour. Donc ça, c'est fin avril, donc c'est un peu ce qui lance ma saison, même si je fais quelques nationaux avant. Il y a un autre concours que j'adore, que je note systématiquement dans mon calendrier, c'est le Royal Jump de Bertichère, qui est un super concours. J'invite vraiment tous les cavaliers à y aller. L'été d'Inard, que j'ai fait pour la première fois il y a 2 ans avec Hemingway, et ça a été c'est un rêve ce concours. Et Lyon. Donc en fait, c'est un peu mes concours que je me note, et entre ces concours, planifie d'autres concours, soit des nationaux, soit des CSI. Mais en tout cas, c'est sûr que je veux aller à ces concours. Donc peut-être que l'année prochaine, ça va changer en fonction des objectifs. Après, c'est vrai que j'aime pas faire trop de concours. Je préfère faire un CSI sur 3 jours, mais on me verra rarement enchaîner 2 week-ends de suite avec mes chevaux. Alors,
D'accord.
ceux qui partent en tournée ou qui font 3 CSI de suite, alors là, c'est impensable pour moi. Je trouve que les concours, j'adore ça, hein, vraiment, mais c'est quand même exigeant pour les chevaux. Ils dorment pas chez eux, ils ont aussi besoin de repos, de calme. Partir en tournée, etc., c'est pas du tout un truc que moi j'ai envie de faire. Oui, ça fait rêver, etc., mais je trouve que pour leur confort, c'est pareil. Les emmener trop loin, leur faire faire trop de route, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et je préfère, voilà, bien cibler des concours où je sais que je vais prendre du plaisir, m'amuser, pas forcément loin, mais des beaux concours. Et ouais, j'ai l'impression que je ne fais pas tant de concours que ça par rapport à d'autres cavaliers de mon niveau. Mais bon, voilà, moi, c'est mon métier. Enfin, c'est pas mon métier, justement, donc c'est aussi difficile de s'organiser par rapport à sa vie pro. Je suis souvent en déplacement, donc je trouve que c'est un planning qui est bien pour les chevaux. Et je trouve que c'est important d'écouter les chevaux aussi. Par exemple, cette année, j'avais très envie d'aller à Chantilly, qui est un concours sur herbe, et j'adore sauter sur herbe. Mais voilà, Hemingway, je ne l'ai senti pas très bien début juin. On a fait des analyses, et il était pas très en forme. Donc, je l'ai laissé au repos. Je vais pas être frustrée parce que je ne peux pas faire un concours. Je vais pas y aller absolument. Si je sens que mon cheval, il n'est pas au top à ce moment-là. C'est pas grave, des concours, il y en a plein. C'est pas un problème pour moi de.
Oui, c'est pas coûte que coûte avec une
Non.
pression qui peut venir de droite et de gauche.
Non, pas du tout.
Tu gères vraiment en
Ouais.
fonction de ce que tu
Bah,
ressens.
déjà, j'ai pas de coach qui va me.
Justement,
J'ai
c'était
pas
ma
de. Enfin,
question. Bah, tu enchaînes
j'ai
très
mes
bien.
parents, mais j'ai
Oui,
pas de coach qui
oui.
va me dire tu dois aller là, tu dois aller faire ci, le championnat de France, etc. Donc, voilà, déjà, c'est quand même plus facile pour moi.
Ou c'est en concertation, pas de coach ou pas de propriétaire qui peuvent
Non.
exiger tel ou tel concours ou même résultat.
Non.
Mais tu dis, voilà, j'ai pas de coach, c'était une de mes questions. Et tu parles un peu de ta maman. Est-ce qu'on peut
Bah.
parler du coup de ton système? Puisqu'on parle de coaching, de
Oui.
bien-être des chevaux, de planification, ton système se dessine un peu. Si on parle des entraînements, comment tu t'entraînes alors?
Donc au quotidien, c'est vrai que jusqu'ici, je ne pouvais pas beaucoup monter à cheval. Enfin, moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Deux, trois fois par semaine. Mais je peux compter donc sur mes parents qui sont propriétaires des écuries où sont mes chevaux et mon frère qui travaille avec eux. Donc c'est mon frère qui monte les chevaux quand je ne suis pas là. Mes parents les longent, les mettent au paddock. Mais c'est mon frère essentiellement qui monte les chevaux et qui n'aime pas faire de concours. Donc finalement, voilà, tout le monde y trouve sa place. Je saute très peu à la maison. En revanche, je fais pas mal de petits sauts, de petits cavaletti. Et pour en revenir à ma maman, donc c'est elle qui m'a toujours entraînée, un peu plus mon beau-père ces dernières années. Et c'est vrai que ma maman, dès que j'ai commencé à monter à cheval, je sais pas, quand j'ai commencé à faire du concours à 7 ou 8 ans sur ma Shetland, c'est elle qui m'accompagnait. Elle avait un cheval à l'époque qui faisait du hunter, donc elle m'a prêté son cheval et j'ai fait du hunter. Discipline que je recommande à tous les cavaliers qui est géniale, pas du tout assez développée je trouve en France, mais qui apprend beaucoup de choses comme la rigueur, le dressage. Vraiment, je recommande le hunter. Et ma maman, elle m'encourageait à faire plein de trucs. Donc j'ai fait du complet, j'ai fait du dressage pur, du Hunter, donc du CSO. Je faisais vraiment un maximum de discipline. J'ai adoré le concours complet, par exemple, mais je trouvais que c'était quand même hyper dur de se lever le matin super tôt pour faire dressage, cross, CSO dans la même journée.
Ouais.
Et je me suis orientée après vers le CSO. Et elle m'a toujours accompagnée, même quand j'ai monté après à Poney sur des plus hauts niveaux en Grand Prix. Je me souviens, on se faisait des missions pour aller faire des Coupes des Nations en Allemagne, aux Pays-Bas, on prenait notre petit camion. Donc voilà, c'est toujours elle qui m'a suivie. J'ai jamais hésité à prendre des conseils de cavalier pro ou d'aller faire des stages régulièrement. Et j'ai jamais ressenti vraiment le besoin de prendre un coach. Je pense que, en plus, ma maman aurait été un peu vexée. Mais en revanche, voilà, quand j'ai un doute ou quand même elle a un doute en concours, c'est vrai que grâce à mon métier, je connais beaucoup de cavaliers.
Oui.
Et j'hésite pas à aller demander conseil. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait un stage pendant l'hiver avec Jean-Maurice Bonneau. Et quand je le recroise en concours, voilà, si j'ai un doute sur un contrat de foulée ou quoi que ce soit, je sais que je peux aller lui demander et qu'il va gentiment me répondre à mes questions. Donc voilà, j'hésite pas. En tout cas, moi, j'ai jamais honte, en tout cas, de demander conseil, même à des cavaliers à la reconnaissance. Jamais honte de demander, toi tu penses qu'il y a combien de foulées, qu'est-ce que tu ferais, est-ce que tu prendrais l'option, etc. C'est pas un truc, moi j'ai pas de problème avec ça.
Pas de problème avec ça. Et comme quoi les cavaliers ou les entraîneurs renommés sont accessibles.
Exactement.
Alors, j'entends que tu as des accès par ton travail qui fait que tu les connais, tu as une approche avec eux, mais toi tu les sens humains.
Bah, complètement, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Même des grands cavaliers. Bah là, cet été, par exemple, ma fierté ultime, c'est que je venais de tourner un épisode juste avant Dinard chez Rodrigo Pessoa.
Oui.
Et je croise Rodrigo Pessoa à Dinard. Oui. Je suis en tenue de cheval. Donc, il me dit « Ah bah tiens, c'est marrant, tu montes à cheval. » Et je lui dis « Bah oui, je fais une étoile un peu timide. » Et il me dit « Ah bah génial, je viendrai te voir en piste. » Je me dis « Non mais n'importe quoi, il y a Rodrigo Pessoa qui est quand même champion olympique qui va venir me voir en piste, c'est n'importe quoi. »
C'est super sympa. Enfin, c'est très humain finalement. Ouais, il y a un affect quelque part.
Vraiment, ça m'a fait hyper plaisir.
Ah ouais.
Il a regardé, c'est vrai, mon parcours avec mon cheval Hemingway, que j'ai fait naître en plus. Donc c'est vraiment une fierté extraordinaire pour moi d'avoir mon cheval à Dinard. Regardé par Rodrigo, et Rodrigo qui me dit « Ah, j'adore ton cheval, il est super. » Enfin, déjà, ça n'a aucun sens et c'est génial. Donc, je profite.
Oui, je pense que tu as raison de profiter. Et puis, visiblement, c'est pas un compliment. Il attend rien de toi, c'est un compliment réel. Donc, c'est très sincère et humain et sincère. Ouais. Et ça doit donner une bonne dose de confiance en soi. C'est une bonne,
ça fait plaisir.
Ça une bonne plaisir. Piqûre de confiance en soi, ça. Vraiment, tu vis des choses super. Juste, ta maman, elle était du coup cavalière plutôt de Hunter. T'avais quand même ils ont une structure, ils sont quand même dans
Ils se chevaux. Sont rencontrés, ils étaient tous les deux moniteurs dans deux structures différentes.
D'accord.
Et puis, ma maman, c'est vrai, moi j'ai monté même avant de naître, parce que ma maman, elle a monté, je crois, jusqu'à son 8e mois de grossesse.
Ah oui.
Donc j'étais bercée un peu par les chevaux.
Ah oui.
Et quand je suis née, mes parents ont déménagé, ils ont acheté une structure à eux deux.
D'accord.
Qui est toujours la structure qu'ils ont aujourd'hui. Qui est à côté d'Orléans, écurie familiale, un peu orientée compétition, poney, cheval.
D'accord.
Mais petite écurie.
Donc, on comprend comment tu es arrivée dans le milieu du cheval. Oui. Un petit peu bercée dedans.
C'est logique, quand même.
Le coaching. Alors, on comprend que tu vas chercher des outils, tu vas chercher des conseils, que tu ne ressens pas forcément le besoin au quotidien, qu'il y a ta maman qui t'épaule aussi beaucoup, mais que tu es autonome. Tu as vraiment réussi à acquérir une autonomie, et une autonomie dans le choix de tes coachs quand tu vas chercher un conseil. Ça aussi, il me semble que c'est une force. Je ne sais pas comment tu le vis, mais...
Je ne sais pas. C'est vrai que je vois souvent des cavaliers qui sont très dépendants de leur coach. Et souvent, les coachs, d'ailleurs, eux-mêmes n'aiment pas que les cavaliers aillent prendre des conseils ailleurs. Moi, c'est vrai que comme ce sont mes parents, je me sens très libre d'aller chercher des infos à droite, à gauche, chez d'autres coachs, etc. Et je pense que tous les coachs devraient être un peu plus souples là-dessus, discuter entre eux. Le but, de toute façon, c'est que les élèves réussissent. Donc, c'est vrai que, par exemple, à Lyon, je me souviens à la reconnaissance, il y a une cavalière, elle me dit « Oh là là, j'ai peur de la piste ». c'est hyper impressionnant, j'espère que mon cheval va pas s'arrêter. Je lui dis, bah moi, tu sais ce que je fais chez moi, je me mets souvent des tout petits obstacles dans la carrière et je viens n'importe comment. C'est-à-dire que au début, j'essaye de venir droite sur des petits obstacles, j'enchaîne beaucoup. J'aime pas détendre sur un obstacle, donc je fais plein de petits obstacles. C'est aussi quelque chose que j'ai pris chez un pro chez qui je suis allée, Victor Bettendorf, sauter plein de petits obstacles dès la détente. Et ensuite, c'est vrai qu'à la maison, j'enchaîne un peu n'importe comment. Donc je pars au galop et je prends un peu ce qui vient et je me fais 7-8 sauts comme ça à la suite. Et puis je reviens et je prends des options improbables. Donc je viens complètement de travers, surtout avec Hemingway, lui qui est un petit peu peureux, je me suis dit ça va l'habituer à pouvoir sauter tout et n'importe quoi. Donc je viens vraiment beaucoup de biais, je passe devant des obstacles, des tournants très serrés, etc. Et je lui expliquais ça à la cavalière, elle me dit « mais c'est génial, mais moi je fais pas ça, bah, moi j'ai mon coach ». Je lui dis « mais tu sais, tu lui en parles, tu lui proposes, je pense qu'il faut être ouvert en fait ». Et moi par exemple, ce truc de sauter n'importe comment, bon, c'est vrai que dit comme ça, on se dit « elle fait n'importe quoi ». Mais eh ben, ça me permet en concours, quand il y a une option un peu difficile, de me dire « même pas peur, ça passe ». Et même si c'est du 1 au 2, souvent on dit « il faut pas prendre trop d'options en début de parcours ». Bah moi je me dis ça va passer. C'est d'ailleurs c'est mon mantra, ça passe.
Ça passe.
Tous mes amis oui. Le savent. Je me dis toujours ça passe. Et surtout il faut croire toujours en soi. C'est-à-dire que si t'as décidé de faire le truc, si l'option elle est un peu difficile, mais si t'as décidé de la faire, bah soit tu décides à 100% de la faire, mais si t'es hésitant, n'y va pas, ne le fais pas. Si tu le fais,
vas-y
à fond. En fait. Moi, c'est vraiment un truc, souvent je fais, on me dit, mais t'es partie comme une folle, t'es partie à fond, t'as pris des options, c'était n'importe quoi. Mais en fait, je pense que ça passe, justement, parce que j'y crois. Et à cheval, je pense qu'il faut laisser peu de place au doute, parce que déjà, on est deux. Si toi, tu doutes, forcément, ton cheval, il va douter. Si toi, t'es déjà à 150% de ta confiance et que t'es sûr que ça va marcher, tu vas transmettre ça forcément à ton cheval, c'est logique. Alors que si tu te dis, ah, peut-être il va s'arrêter, peut-être il va douter, bah là, c'est sûr, il va s'arrêter. Mais voilà, je pense qu'il faut y croire. Alors parfois, je me plante, hein, à Dinard, je suis tombée parce que j'ai monté une foulée qui était improbable. Mm-hmm. Mais bah, c'est pas grave, une fois, ça passe pas et ça passera peut-être 10 fois après. Et, ouais. Et c'est 10 fois où tu le regretteras pas parce que tu seras content de toi et que ça va marcher. Mais en tout cas, quand tu prends une décision, je pense qu'il faut la prendre vraiment jusqu'au bout. Si tu décides de retirer une foulée dans un contrat de foulée, bah, fais-le dès la réception, quoi, tu vois, à fond.
L'intention.
Exactement.
Jusqu'au bout. Ce que je retiens dans tout ça, c'est quelque chose aussi que tu as mentionné au début. Finalement, tu joues avec tes chevaux. Tu crées cette complicité, sauter tout et n'importe comment. Ça crée une confiance mutuelle, ça crée une complicité. Et effectivement, après, quand tu te retrouves... en parcours, apprendre quelque chose d'improbable, bah, ils l'ont déjà vécu de manière super agréable.
Exactement.
Donc, bah, on y va. Mm. C'est ce que je retiens de ça.
Et aussi. Puis même, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais la première à pas me moquer, mais trouver que Luciana Diniz, par exemple, en faisait beaucoup en sortie de piste, elle caressait ses chevaux, etc.
Ouais.
Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que moi, je faisais exactement la même chose. Et c'est drôle parce que j'ai eu la chance d'aller il y a pas longtemps chez elle pour un tournage. Et je voyais qu'après avoir monté son cheval, elle le laissait en liberté, elle le laissait se rouler dans la carrière. Et moi, c'est un truc que je fais souvent chez moi. Donc après avoir monté, j'aime bien laisser les chevaux en liberté, je les décèle, ils peuvent se rouler, profiter. Après, on joue un peu en liberté. Et je me suis dit, mais en fait, celle que tu voyais un peu comme une folle, bah, tu fais exactement les mêmes trucs. Et voilà, quand je la vois avec ses chevaux... elle leur parle aussi, je me dis, mais en fait, ouais, vraiment, c'est... tu fais la même chose.
Oui, mais vous créez des liens spécifiques. Mm. C'est du jeu, il y a de la rigueur et du jeu dans ce qu'on entend. Et ta carrière, c'est aussi bien, sûrement de la rigueur, il en faut, mais aussi du jeu. On se roule, on peut trouver son compte dans la carrière. On n'est pas qu'en reine allemande, bridé, éperon long comme on n'en fait pas. On arrive à obtenir des choses.
Et je trouve même, d'une manière générale, qu'on travaille trop les chevaux. Alors peut-être qu'il y a des cavaliers qui vont dire « mais elle est complètement folle de dire ça », mais je trouve qu'on travaille trop les chevaux, et à droite, à gauche, cercle, machin. Par exemple, Vainé, je la monte, elle prend systématiquement la carrière, la direction de la balade.
Oui.
Elle aime pas aller travailler en carrière sur le plat.
Oui.
Bah, si elle prend la direction de la balade, bah, je vais en balade. Sauf si les terrains sont boueux, etc. Oui. Mais je la laisse aller et on va en balade. Et je la travaille beaucoup en extérieur. Beaucoup de trot, beaucoup de galop. Et ça n'empêche pas d'assouplir, de ralentir, d'accélérer. Toutes les choses dont on va avoir besoin, finalement, en parcours. Alors évidemment, elle travaille aussi sur le plat en carrière, mais elle aime pas ça. Donc je me dis, moi j'aimais pas les maths à l'école, et ben j'ai fait L. Je pense qu'il faut toujours aller dans là où on est confortable. Et voilà, elle adore aller dehors, bah on va dehors. Et ça l'empêche pas d'être super en concours, etc. Hemingway, c'est pareil, il est très feignant sur le plat. Bah j'essaye de l'imiter. Et pourtant, c'est un cheval qui est très souple. Voilà, j'aime pas forcer les chevaux. Vainée, je la monte. Ça m'arrive depuis cet été de la monter à cru. Alors que c'est une jument qui est explosive en concours, très chaude, etc. Et ma mère me dit non, mais ne monte pas à cru, ça va pas bien se passer. Et cet été, j'avais les deux chevaux en vacances avec moi en Normandie. Je me suis dit là, je suis toute seule, je vais pouvoir faire mes petites conneries tranquille, sans que personne me voie. J'ai mis mon filet, j'ai mis mon tapis, je suis allée monter à cru en carrière, j'ai trotté, j'ai galopé. Je me suis régalée comme si j'avais 12 ans et je suis rentrée toute fière. J'ai dit « Mais j'ai monté Vainée à cru ». Et depuis là, il y a quelques jours, par exemple, je suis retournée en balade avec elle à cru. Voilà, je trouve que c'est quand même un sport qui est cool. On est avec des animaux qu'on aime. Enfin, vraiment, j'essaie de toujours m'amuser. J'aime pas faire des trucs qui... Je suis là pour me détendre, c'est mon loisir. Et ça doit pas être une contrainte. Mm. Donc, tout pour moi doit être un moment de plaisir.
Alors, de plaisir.
C'est pas toujours le cas, évidemment. Mais là, en ce moment, l'hiver, on est en manège, c'est moins drôle. Mais voilà, j'essaie toujours de...
D'en tirer du positif.
Exactement.
Je suis dans le manège, qu'est-ce que je peux faire pour rendre aussi les séances agréables à mon cheval Est-ce qu'on peut continuer, toujours sur le bien-être? Tu cherches à comprendre tes chevaux, tu cherches à leur créer du confort dans ce qu'on entend dans le travail, dans leur quotidien. Et pour bien les comprendre, j'ai l'impression que tu fais appel, du coup, comme tu le disais, à une personne qui travaille sur la communication animale. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, j'étais...
Et pourquoi ce choix aussi?
J'étais très, 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 très dubitative sur la communication animale. Pour moi, c'était un truc d'escroc, de charlatan. Surtout une pratique sur une... Souvent, en fait, on envoie une photo de l'œil du cheval et de sa tête et on envoie son nom. Et je me disais, non, mais c'est n'importe quoi, c'est improbable. Ça ne peut pas fonctionner. Et j'ai une amie, j'avais des problèmes avec une jument, ma jument précédente, Baya. Et une amie m'a dit, écoute, je t'offre la communication animale, et puis voilà, tu verras. Donc je donne le nom de la jument, son âge et une photo. Et là, on me décrit trait pour trait ma jument, avec des problèmes aux ovaires, voilà, une jument qui n'était pas bien dans son corps, etc. Donc une première fois, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et puis j'ai continué, au fur et à mesure, j'ai commencé avec Hemingway, et puis avec Vainée.
Hemingway que tu connais par cœur, puisqu'elle est née à la maison.
Complètement. Donc, et bon, Hemingway, c'était bluffant, parce qu'effectivement, il est né dans mon jardin, on l'a vu grandir, et tout le monde me dit, oui, mais peut-être, elle est allée regarder tes résultats sur la FFE, des vidéos, etc. Mais elle, la première fois que Ludivine a parlé avec Hemingway, elle m'a raconté des détails, que de son enfance, de son sevrage, de son débourrage, que personne ne pouvait connaître. C'est impossible. Alors, c'est vrai que même moi, j'ai du mal encore à comprendre aujourd'hui comment c'est possible. J'aimerais d'ailleurs beaucoup me former à la communication animale pour comprendre mieux. Ça a énormément aidé, je pense, dans mes résultats, dans mes résultats en concours. Hemingway, par exemple, je le fais suivre à tous les concours où il ne dort pas chez lui. C'était un cheval qui avait souvent mal au ventre quand il allait en concours, il ne mangeait pas, il ne montait pas dans le camion. En concours, il était très très stressé. Et je me disais, c'est vrai que nous, les humains, quand on part en concours, on se met dans un mode, dans notre tête, concours, compétition, voilà, je vais bien manger, je vais bien dormir, je vais faire du sport, etc. Les chevaux, eux, on les met dans le camion et ils ne savent pas où ils vont.
Oui.
Donc pour moi, c'était important. Et encore une fois, il faut y croire, hein. que quelqu'un dise à Hemingway, bah voilà, tu vas monter dans le camion pour faire ça, tu vas dormir à tel endroit, et demain tu vas sauter des obstacles. Et c'est vrai que depuis 2 ans où Lee Devine suit Hemingway, et bah, j'ai beaucoup moins de problèmes pour monter dans le camion. En concours, il mange bien, il est beaucoup plus détendu. Et c'est vrai que je ne fais pas appel à un préparateur mental à proprement parler pour moi. Mais je pense que Ludivine, sans le vouloir, elle est mon coach mental parce qu'elle me rassure ou elle m'aiguille sur l'état d'esprit de mes chevaux. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Alors, c'est vrai qu'il y a encore 2 ans, je passais un peu pour une illuminée avec mon histoire de communication animale. Et puis finalement, je pense que j'ai envoyé beaucoup de personnes vers Ludivine. Et qu'il y a de plus en plus de personnes qui font appel à elle. Et voilà, c'est pour les concours, mais c'est aussi pour le quotidien. Quand je les ai emmenés en vacances cet été, bah, je les ai prévenus tous les deux. Enfin, Ludivine les a prévenus. Vous allez aller dormir dans une écurie pendant un mois et demi ailleurs. On va aller à la plage. Ma jument Baya, quand j'ai voulu la faire pouliner, j'ai demandé à Ludivine de savoir si Baya avait envie de pouliner, si elle se sentait bien dans son rôle de mère, etc. Alors peut-être que... Voilà, ça va paraître lunaire pour beaucoup de personnes, mais moi, ça fait partie intégrante de mon...
Tu sais, les personnes qui t'écoutent, après, chacun son avis, chacun ses opinions, peut avoir un avis aujourd'hui et puis évoluer, avoir un autre avis demain. Mais en tout cas, c'est très, très chouette de ta part de le partager aussi, pareil aussi, avec beaucoup de transparence et beaucoup d'émotion. Et on sent que c'est très, très, très fort pour toi de savoir que tes chevaux puissent être... comment on peut dire ? Est-ce que c'est informé, guidé, rassuré par ce que propose Ludivine ?
Je pense que déjà, quand on fait appel à quelqu'un comme Ludivine, il faut être prêt à écouter, mais aussi à agir en conséquence.
Et agir en conséquence.
Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour un cheval de s'exprimer et de ne pas être entendu. Donc si le cheval dit... qu'il n'aime pas le dressage. Je pense que si tu continues à faire du dressage comme un fou furieux, pour lui, c'est la pire des frustrations. Alors évidemment, moi, j'ai beaucoup de chance parce que mes deux chevaux, ils adorent aller en concours, ils adorent sauter. Vainé, par exemple, quand je lui ai parlé de vacances cet été, elle a dit à Ludivine, moi, je veux bien aller en vacances, je veux bien faire ce que vous voulez, la plage, des balades, etc. Mais je veux continuer à aller en concours, j'adore les concours. Donc forcément, moi j'ai de la chance, mes chevaux ils adorent ça. C'est sûr que si le cheval dit « bah non, moi j'aime pas trop sauter » et que vous êtes un cavalier de CSO, bah ça va poser un problème. Mais Ludivine, elle est aussi là pour arrondir les angles avec les chevaux en fait, pour trouver des solutions. Et voilà, je pense qu'il faut en tout cas écouter. Si on fait appel à quelqu'un comme Ludivine, il faut être prêt à écouter la réponse du cheval et ses émotions à lui, quoi.
Et qu'est-ce que je mets en place derrière ? Voilà, c'est ce que tu dis. Comment j'agis ? C'est pas le tout d'entendre, écouter et agir.
Bah, Hemingway, par exemple, qui était très stressé en concours, j'ai allongé les plages où je le marchais, où je le faisais brouter. Alors, c'est sûr que lui, c'est un peu un débilos en main. Il est un peu... Il n'écoute pas grand-chose, mais c'est ma faute, hein. C'est moi qui ai mal fait son éducation. Mais voilà, j'essaye de le sortir un maximum. J'ai allongé les plages où il est dehors.
Et tu le sens mieux avec tes actions, du coup ?
Hemingway, ça a été un changement. Depuis que Ludivine le suit, ça n'a cessé de... Il a pris confiance en lui, c'est incroyable. Alors que c'était un cheval qui doutait beaucoup. Il a pris confiance en lui... Moi, forcément, j'ai encore plus confiance en lui aussi. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait, je trouve, ce travail avec Ludivine et
c'est Hemingway. Un travail d'équipe, oui. Vous êtes en trio sur le cheval.
Et c'est vrai que pour Vainé, qui est une jument avec beaucoup moins de problématiques que Hemingway, je fais très peu appel à Ludivine. Mais comme Ludivine est de Lyon et que Vainé était à Lyon... Je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas profiter de sa présence pendant la finale à Equita, par exemple. Et on a beaucoup ri, parce que Vainé, c'est une jument avec une personnalité incroyable. Et le dernier jour, c'est vrai que j'ai dit à Ludivine, tu diras à Vainé qu'on est extrêmement fiers d'elle, que c'est une star, une championne, que vraiment, on est très, très fiers quoi, de tout ce qu'elle nous a donné. Et Vainé a répondu, entre guillemets, qu'elle n'avait fait que son travail, quoi. Qu'elle n'avait fait que ce qu'elle avait à faire. Il n'y avait rien de fou dans tout ça. Bon, elle a fait voilà, ce qu'elle aime, ce qui lui fait plaisir. Il n'y a pas plus, quoi. Alors que nous, on était comme des fous. Mais elle, voilà, c'était normal pour elle.
Une dame.
Une dame.
Une dame vaillinée. Mais on voit dans ses yeux, dans son... Ça se voit sur les vidéos qu'elle a une personnalité, une vraie personnalité. Vaillinée, Hemingway. Vaillinée, comment elle est arrivée sous ta selle, finalement?
Vaillinée, c'est une jument que mes parents ont achetée pour mon frère Valentin et mon frère Clément. Sauf qu'ils ne sont pas très, très motivés à faire du concours tous les deux, surtout quand c'est loin, surtout quand c'est tôt. Et donc, à l'époque, j'avais ma jument Baya qui était engagée en concours et Clément était engagé dans la même épreuve, un dimanche. Et l'épreuve était à 8 heures. Et donc, j'avais jamais trop porté d'attention à Vaillinée. Et finalement, Clément trouvait que l'épreuve était trop tôt le matin, il avait la flemme. Et j'ai dit à ma mère que c'était dommage de désengager. Donc, j'ai dit, bah écoute, je vais monter ma jument Baya et je vais monter au pied levé Vaillinée. Moi, j'ai monté beaucoup de poneys différents quand j'étais petite, plein de chevaux différents. Je lui ai dit, c'est pas une très grosse épreuve, ça va le faire, t'inquiète. Et donc, j'ai monté Vaillinée au pied levé ce jour-là. Et ça a été un coup de foudre. À l'époque, je doutais beaucoup avec ma jument Baya qui était compliquée, qui... pouvait gagner un jour, éliminer le lendemain, vraiment pas une jument très très régulière. Et Vaillinée, elle se pose pas de questions en fait. Donc elle adore le concours, elle adore sauter, elle s'arrête jamais. Et en fait, ce concours, ce tout premier concours, je me suis dit mais elle est super cette jument, elle est incroyable. Et bon, comme mes frères ne demandaient pas plus à aller en concours, bah, moi quand j'allais en concours avec Baya, systématiquement, j'emmenais Vaillinée. Quand il y a une place dans le camion, c'est quand même dommage de partir avec un seul cheval. Donc, on a commencé à emmener Vaillinée en même temps que Baya. Et voilà, ça a été un coup de foudre avec Vaillinée. On a tout de suite gagné beaucoup d'épreuves. On était très, très souvent classés. C'est vraiment une jument que j'adore, que j'aurais aimé peut-être avoir plus tôt. Mmh. Et voilà, vraiment, c'est une jument...
Une révélation, ouais, une vraie connexion.
Pleurer, et... quoi. Tellement je l'aime, elle est trop...
Ah, oui, oui,
elle est vraiment géniale, elle est vraiment géniale.
Ouais, tu lui rends bien. On sent que c'est un couple, enfin, toutes les deux, c'est comme tu dis, une dame, mais on sent que tu la titilles quand il faut. Il y a ces moments où vous vous retrouvez, ou cet espace de liberté que tu lui laisses. Ouais. Et puis, enfin, c'est un truc qui ne s'explique pas non plus forcément, qui n'est pas facile à décrire, mais beaucoup d'émotions avec cette jument-là. Quelques petites questions pour terminer. Si on répondait un petit peu plus, tu vois, oui, par oui ou par non, est-ce que tu te définirais comme étant une cavalière qui a confiance en elle?
J'ai confiance en moi, et je le dis sans aucune prétention, encore une fois, j'ai confiance en moi parce que je ne m'élance jamais sur des épreuves sur lesquelles je ne suis pas à l'aise. Donc oui, on peut dire que j'ai confiance en moi.
Je rebondis juste là-dessus, et j'espère que les cavaliers qui nous écoutent l'entendent bien, avoir confiance en soi... Ce n'est pas être hautain, c'est simplement avec beaucoup d'humilité, il faut avoir confiance en soi. Et toi, tu précises que tu as confiance en toi parce que tu sais où tu vas, comment tu y vas, ce qui n'empêche pas qu'un jour on peut tomber parce qu'on a une foulée fantôme ou qui n'était pas prévue. Mais confiance en soi n'est pas assimilée à être hautain. Voilà, donc merci Camille. Y a-t-il quelque chose qui te motive à bloc et inversement, quelque chose qui peut te démotiver?
Ce qui me motive, c'est de bien, quand j'arrive en concours, c'est de bien avoir mon parcours dans la tête, me dire exactement ce que je vais faire. Moi, j'adore aller vite, vraiment.
T'aimes la vitesse.
J'adore la vitesse.
Ouais, ouais.
Je conduis vite.
Oui.
Donc,
c'est pour ça que tu es arrivée très en avance.
Non, mais c'est vrai que j'aime la vitesse en ski. Bon, je ne suis pas une super skieuse, mais j'adore aller vite.
Ouais.
Dans tout ce que je fais, j'aime aller vite. Et c'est drôle parce que même en voiture, pour moi, c'est comme quand je suis sur un barrage, je me dis toujours, voilà, préparer le tournant, même si je marche, je vais toujours... Enfin, pour moi, tout est un barrage.
Elle est là, ta prépa mentale. C'est que tu l'as fait quotidiennement, sans le savoir.
Tout est un barrage, tout est au plus court. Quand je... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais à cheval, dès la reconnaissance... souvent, quand il y a des pots de fleurs, par exemple, et qu'il faut prendre une option, je frôle le pot de fleurs, enfin, je le touche en tout cas en marchant, parce que je me dis, voilà, c'est ça mon repère, et je vais glisser sur le tournant. Ouais. Et voilà, ça me motive. Aller vite, ça me motive. Pas n'importe comment.
Oui,
je suis pas non plus...
T'es structurée dans ta vitesse.
Mais aller vite et gagner, voilà, j'adore gagner, j'avoue. C'est un truc, je sais pas qui m'a transmis ça, puisque ma mère faisait du hunter, donc c'est pas vraiment des épreuves où on va vite. Mais moi, j'adore gagner, j'adore...
T'as le frisson.
Ouais,
c'est un frisson contrôlé.
Enfin, des émotions comme le barrage à Ekita, c'est génial. C'est un truc, un sentiment que j'adore, quoi.
Ouais. Pas facile à décrire, mais... C'est dommage qu'on n'ait pas l'image, parce que je le vois.
Et un truc qui me démotive, alors ça c'est vraiment un truc, ma mère, si je passe à la fin de l'épreuve, et qu'il y a beaucoup de cavaliers qui sont sans faute, elle ne peut pas s'empêcher de me dire « Ah bah voilà, ah bah tout le monde est sans faute, ah bah tout le monde est sans faute. » Et moi dans ma tête je me dis « Si moi je suis pas sans faute, je suis nulle. » En fait elle s'en rend pas compte, mais avec cette petite phrase...
Ah ouais.
Elle me...
Petite pression.
Ah, elle... ça m'agace, ça m'agace. Et en même temps, ça me pique, donc forcément, ça me motive aussi. Mais c'est une phrase, elle me le dit tout le temps, c'est systématique. Et maintenant, en fait, ça m'énerve et ça me fait rire, parce que je sais qu'elle va me le dire. Et voilà, c'est vraiment la petite phrase qui m'énerve, quoi.
Et ça te pique aussi, donc le petit pic, c'est...
Quand même.
J'y vais. Je reviens juste sur la vitesse parce que je réfléchis en même temps. Je fais encore une petite parenthèse. Quand on parle de vitesse, c'est effectivement une vitesse qui est souhaitée, qui est voulue, qui est contrôlée. Oui. Tu connais tes chevaux, tu sais comment ils partent, tu sais comment ils reviennent, tu sais la liberté, tu sais les retendre, tu les connais par cœur. Donc il y a quand même dans cette confiance, moi ce que j'entends vraiment, c'est la technique. Il faut que la technique soit juste. La technique, tu l'as expliqué, il y a plusieurs manières de la travailler, il n'y en a pas qu'une. Celle-ci, elle te correspond très bien, j'espère que ça fera écho chez certaines personnes. Mais la technique aussi est là pour donner confiance, bien connaître ses chevaux, bien se connaître. Et après, le mental, finalement, tu fais ta prépa mentale quand tu t'amuses, même t'aimes la vitesse, tu conduis, tu vois tes tracés, ton cerveau est entraîné finalement à ça, c'est un truc qui te fait vibrer et tu vis comme ça. Pour terminer, si tu avais des conseils ou des tips à donner à nos cavaliers, ceux qui nous écoutent, lesquels seraient-ils ?
Alors, moi je disais tout à l'heure que j'utilise beaucoup la visualisation.
Oui.
Et les veilles de concours, j'utilise aussi beaucoup la visualisation, on va dire, positive. Par exemple, l'année dernière à Ekita, avant la finale, la première finale, j'étais à l'hôtel avec deux amis à moi, on partageait la chambre. Et le soir, je leur disais, bon, alors je vais regarder mes parcours victorieux de l'année. Mmh. Elles me disent, mais pourquoi ? Et je leur dis, bah en fait, moi, toutes les veilles de concours, je fais ça. Je me regarde, je sais pas, une série de 5-6 parcours que j'ai aimés, pas forcément des victoires, mais que j'ai aimés, qui m'ont procuré du bonheur. Et ça me met dans un mood... Où, voilà, la dernière image que j'ai avant de me coucher, c'est du kiff. C'est de la joie, de la vitesse, enfin tout ce que j'aime, de la réussite aussi. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé depuis cette finale. Chaque veille de concours, je me regarde des parcours que j'ai aimés, que j'ai trouvé bien montés, où j'ai eu de la réussite, ou même parfois quand j'ai fait une connerie, mais que c'est passé.
Oui,
et
oui.
Ça aussi, ça redonne confiance. Donc, pareil, des photos de concours où voilà, je suis contente, des moments avec mes chevaux où je les caresse. En tout cas, des images, j'essaie de m'endormir avec une image positive. Et pareil, je fais exactement la même chose à la fin de la reconnaissance. Une fois que j'ai bien visualisé mon parcours, je m'imagine, ça pareil, ça fait beaucoup rire mes amis, je m'imagine passant la ligne d'arrivée, caressant, un grand sourire, les yeux fermés. En tout cas, il faut que je me voie.
Oui,
en réussite.
Oui.
Et c'est peut-être. Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est un truc complètement fou de faire ça. Et encore une fois, c'est pas me voir la meilleure, la plus belle, la plus grande, la plus géniale et tout. C'est juste me voir et me dire voilà, c'est comme ça que l'histoire, elle doit se finir en fait. Et c'est comme ça que j'ai envie qu'elle se finisse.
Enfin, moi, ça résonne effectivement beaucoup. J'essaie de transcrire un petit peu, de le dire autrement. Ce que tu dis, c'est que tu te sens vibrer, tu sens ce que tu as envie de ressentir sur ta ligne d'arrivée. Et encore une fois, ça n'a aucun... C'est pas un manque de modestie, absolument pas. C'est se mettre dans un état d'esprit, dans une sensation, dans une vibration, quelque part. dans un esprit, un état d'esprit mental, on peut appeler ça comme on veut, et tu vois ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de ressentir dans tes tripes. Là, on n'est plus vraiment dans la tête, on est dans les tripes, ce que tu veux partager avec ta jument. Et ça, tu le vois et tu vas chercher ça. Tu vas chercher à décrocher ça.
Évidemment, je ne dis pas que parfois, je me vois aussi faire 12 points. Hein. Mais en fait, cette image, elle est... j'essaye tout... Enfin, dans ma tête, c'est ce qu'on appelle des pensées intrusives. Donc, le 12 points, pour moi, c'est la pensée intrusive.
Oui.
Et j'essaye tout de suite de la balayer. En fait, il faut que la dernière image que j'ai en tête, c'est le sans faute. Parce que si je pense à la Georgette ou à la faute, ça le fait pas du tout.
Ça le fait pas. Donc tu as des pensées intrusives.
Ah, tout le temps.
Comment tu les gères, ces pensées intrusives?
Par exemple, cet été, il y avait un Grand Prix Amateur Gold Tour à Fontainebleau. Il y avait une palanque. J'ai horreur des palanques, palanques blanches, vraiment dégueu.
Ouais.
Et je me dis, je vais faire la faute. J'avais Hemingway. Et je me dis, je vais faire la faute. Bon, bah là... Par exemple, ce jour-là, la pensée intrusive, j'ai jamais pu la balayer. Mmh. Et je suis arrivée sur mon parcours et j'ai tiré. Bon, j'ai de la chance, j'ai un cheval génial qui m'a sauvée.
Il s'est enroulé.
Vraiment, il a... Ouais. Et puis, en fait, ce qu'il faut quand il y a cette pensée intrusive qui va trop loin et qui se produit vraiment dans le réel, c'est tout de suite repartir. Et là, je me souviens très bien qu'à la réception, j'ai dit « Ouah, la chance !» Et je suis repartie. Et c'était le triple après. Il y avait un long tournant et je suis repartie et je me suis dit, c'est bon, tu vois, on y est encore, on est encore dans le jeu.
Ouais.
Il n'y avait pas de sans faute, c'était une épreuve hyper difficile. Et je me suis dit, voilà, ton truc là que tu redoutais, il est passé, vas-y, c'est bon, c'est parti. Et je me souviens que je l'ai dit même à voix haute, waouh, la chance. Et ah, je suis repartie tout de suite, en fait.
Tu t'es remobilisée tout de suite,
ouais, complètement.
Ça y est, c'était passé. Imaginons que ce soit pas passé, comment t'aurais continué? Pareil, c'est, j'ai 4 points, je me remobilise et j'y vais.
Je me dis, en une seconde, il faut que tu réfléchisses. Voilà, il n'y a pas de sans faute, rien n'est perdu, tu continues. Oui, c'est énervant parce que c'est toujours énervant de faire une faute, mais j'aurais continué dans le même état d'esprit, peut-être avec moins d'envie et moins de motivation, c'est sûr, mais j'aurais continué.
Tu te serais remobilisée. Ouais. En tout cas, tu as des pensées intrusives aussi qui arrivent. Comme quoi, rassurez-vous, ça arrive même.
Oui.
Très bon cavalier. Ça, il faut apprendre à les gérer. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend. Mm. Mais globalement, tu mets des stratégies en fait, par toi-même en place qui fonctionnent extrêmement bien. Ta prépa mentale, tu l'as fait de manière très autonome. Mais oui. Et tu l'exprimes là très bien. Est-ce que tu aurais de manière libre, Camille, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais aborder, partager, conseiller, recommander ou...
Vraiment, on en a pas mal parlé, mais le regard des autres, vraiment, je pense qu'il faut s'en défaire. Et souvent, quand on a une idée, elle n'est pas forcément mauvaise. Et je pense qu'il faut se laisser le droit à l'erreur et se laisser le droit de se tromper. Faut toujours réussir à voir le positif. En tout cas, moi, je me trompe aussi. Je m'en veux, je m'énerve, je peux ressasser pendant une semaine un mauvais parcours. Mais voilà, il faut toujours repartir. Et vraiment, le meilleur conseil, c'est de jamais se surclasser, je pense.
Jamais se surclasser.
Non, toujours faire des épreuves sur lesquelles on est en confiance. Parce que je vois trop souvent des cavaliers dire « Ah, j'ai peur, je suis pas bien, j'ai peur ». Et moi aussi, je suis stressée. Évidemment, j'ai la petite boule au ventre avant d'entrer en piste. Mais c'est pas de la peur, c'est l'adrénaline, je pense, enfin, l'envie de bien faire. Mais je vois souvent des cavaliers qui ont peur, même sur les paddocks, je vois des cavaliers qui sont pas bien, qui sont pas en confiance, qui ont peur de leurs chevaux, des réactions de leurs chevaux. Et il n'y a pas de honte à redescendre. Ma jument Baya que j'avais avant, elle avait plus envie, on est descendu d'épreuve, elle avait encore plus envie, on a arrêté de la faire sauter. Il faut vraiment écouter les chevaux, quoi. C'est le plus important. Et leur parler, vraiment. Je reviens là-dessus, mais Hemingway, très peu avec Vainé, mais Hemingway, je lui parle beaucoup en piste, je l'encourage. Je l'encourage, je lui dis « Allez, on est ensemble, je t'abandonne pas ». C'est des trucs que je me dis dans ma tête, mais je me dis les dire à voix haute, surtout que j'ai l'habitude de beaucoup lui parler. Bon, lui, il a l'habitude de ça, donc pas hésiter à leur parler, même si on peut passer pour des tarés, c'est pas grave. Et surtout, toujours récompenser, vraiment la gratouille. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est très important. et passer du temps avec eux.
Bon, on finira sur ces très beaux conseils de connexion, finalement, de lien, comprendre ses chevaux, être avec eux, être avec eux, les écouter, les respecter dans ce qu'on leur donne aussi, pas d'anthropomorphisme.
Non.
Et Camille, je te remercie vraiment infiniment pour tout ce que tu nous as partagé avec beaucoup de transparence, beaucoup d'émotion, d'être venue jusqu'ici. Et bah, écoute, pour te suivre, on peut te retrouver où si on veut suivre ta saison?
Sur Instagram. C'est vrai que l'année prochaine, je déménage. Donc, je vais pouvoir beaucoup plus monter à cheval, puisque j'ai trouvé une pension pour Hemingway à 5 minutes de mon nouveau logement. Donc pour moi, ça va être un changement de vie complètement radical. Je le voyais pour l'instant que 2-3 jours par semaine, et là, je vais pouvoir m'en occuper au quotidien. Donc je suis super heureuse. Pour l'instant, j'aurai Hemingway. Vainé, elle va rester chez mes parents, mais je continuerai à la monter régulièrement. Et voilà, donc je vais continuer à partager la petite vie d'Hemingway, qui est un cheval très drôle.
Très drôle.
Je trouve qui a un caractère vraiment très amusant. Et donc sur Instagram, voilà, j'essaierai de partager nos petites aventures.
Mais écoute, on va les transmettre, et je transmettrai aussi, si tu es d'accord, peut-être les contacts de Ludivine et de la personne aussi qui masse tes chevaux.
Oui, avec
pas
plaisir.
Parlé, mais il y a aussi cette personne qui s'occupe du massage.
Kelly Epina et Anthony Bougaba Duplay. Chaque cheval a son masseur.
À son masseur. Je vous transmettrai tout ça, en tout cas dans les résumés, dans la bio, vous pourrez retrouver toutes ces informations et suivre Camille sur l'année 2024. Donc Camille, on te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.
Merci.
On va te suivre, et puis merci encore pour ce témoignage qui va être profitable, je suis sûre, à beaucoup de personnes, beaucoup de cavaliers.
Merci beaucoup.
Bon retour.
Merci.
À bientôt. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère très sincèrement qu'il vous a plu, et je remercie encore beaucoup Camille d'avoir accepté cette invitation. Vous le savez maintenant, les podcasts, pour les soutenir, je vous demande simplement de mettre 5 petites étoiles, éventuellement un commentaire si vous avez aimé les conseils et l'histoire de Camille. Et je vous dis à la prochaine fois.